infection, eh bien, ce port du masque viendrait de cette épidémie de grippe espagnole au Japon. C'est pas le moyen de vérifier, mais c'est lui qui l'avance. Les médications, alors on a deux médications qui évidemment sont assez peu efficaces, les inhalateurs, du menthol, de l'eucalyptol, et puis des saignées, des chutes au chaud d'eau froide, des antipyrétiques, des quinines, hein, la quinine est recherchée à l'époque, hein, puisque bon, on sait déjà qu'elle combat le paludisme, mais elle est recherchée parce que on pense qu'elle combat la grippe. Et puis, il y a également des injections en tout genre, hein, c'est la grande mode des piqûres à l'époque, donc on fait des piqûres de tout et n'importe quoi, il faut passer les détails. Et puis la dernière panacée, c'est l'alcool, qui crée le rhum, évidemment. Donc là, on voit par exemple hein, le rhum à titre médical, la ville de Paris pour assurer la fourniture de rhum aux malades et éviter toute spéculation sur cet alcool, a fait venir 500 hectolitres de rhum, 50 millilitres de même, qui vont être distribués dès lundi aux pharmacies par l'entremise de grossistes. Ce rhum ne pourra être délivré que sur ordonnance du médecin. Donc on a également dans ce concours de presse ici, on a la réquisition d'un asile pour y déposer des malades. On a aussi les services de taxi qui sont mis à la disposition des médecins. Voilà, donc il y a toutes sortes de mesures. On est déjà très tardif. Dans l'épidémie, on est déjà fin octobre, donc ces mesures, notamment ces mesures d'accompagnement de médecins, sont très tardives. Et une des polémiques, c'est que l'armée rechigne à lâcher ses ressources pour la population civile, ses ressources en humaines et ses ressources matérielles, ses besoins de transport, etc. Donc ça, c'est une polémique qu'on voit pas mal. Donc les médications toutes plus fantaisistes que les autres, je pense. Les conséquences démographiques à court terme et à long terme. Sur le graphique de droite, on voit la courbe de naissance et de conception au Portugal en 1918-1920. On a appris tous à l'école que les périodes de guerre se traduisaient par des déficits de naissance. Or, sur beaucoup de pays, y compris les pays qui n'étaient pas en guerre, on observe ce déficit, bien sûr, mais il est à son creux, à son minimum. Donc, pour le Portugal, le minimum, c'est juillet 19, août 19. C'est-à-dire 9 mois après l'épidémie. Donc on pense que la situation totale, la situation globale de la société à l'heure du pic d'épidémie, en octobre-novembre 1918, était telle qu'il y aurait eu un déficit de conception à cette époque. Et puis, on voit aussi, alors ce qu'on appellerait aujourd'hui la résilience sociale, il y a assez peu de publications à l'époque là-dessus, mais elle a fortement fonctionné. Cette résilience se manifeste notamment par des remariages, par la prise en charge des enfants, et par exemple, on a les chiffres des remariages de veufs en Espagne. Et demain, le nombre, on a à peu près 25 000 veufs qui se sont remariés en Espagne. Or, l'Espagne n'était pas en guerre, donc ce ne sont pas des veufs de guerre, quoi. En plus, ce sont des hommes. Ce sont bien des veufs de grippe. Donc, ces veufs de grippe, il y a 25 000 veufs de grippe qui se sont remariés. Et le remariage commence, on a les chiffres mois par mois, et le remariage commence dès novembre 1918. C'est-à-dire qu'à l'épidémie est à peine terminée, qu'il y a déjà des remariages de veuves de grippe. Même chose pour les veuves. Hein? Donc, ça montre que on a une résilience de la société, donc le ventre qui se retrouve avec ses deux ou trois enfants, eh bien, il va se marier avec sa voisine, avec sa soeur, etc. Il y a des remariages, il y a des prises en charge des enfants par les grands-parents. Donc, il y a quand même une résilience sociale, et les sociétés de l'époque sont habituées à ce genre de choses, parce qu'elles ont été confrontées dans les siècles précédents, dans les décennies précédentes, aux maladies. Hein, les décès de jeunes adultes et les décès de parents sont évidemment beaucoup plus fréquents qu'aujourd'hui. Un dernier point sur la mémoire de la grippe. Pourquoi cette grippe a été occultée dans l'inconscient collectif, ou même dans le conscient collectif, dans le discours collectif. Et ensuite, on verra pourquoi elle réapparaît, notamment à la partir de la fin du XXe. Donc, un événement fait sens aussi à une signification dans le discours historique. Or, ici, le discours historique, enfin, la transition historique, on est dans la transition épidémiologique entre une mortalité principalement d'origine infectieuse, ça c'est le 19e siècle, avec des épidémies, la rougeole, beaucoup de mortalité infantile, la dysenterie, le choléra, qui fait des ravages en France jusqu'à la fin du 19e. Donc on est sur la fin de ces grandes épidémies, et avec Pasteur et l'extermination, la sepsie, l'administration de l'hygiène, on pense que ces grandes épidémies font partie du passé. Et cette grippe espagnole, elle vient contredire un petit peu ce discours. Elle vient contredire, disons, une euphorie pastorienne de cette transition. Alors, la transition épidémiologique, elle se fait entre le maladie infectieuse et puis la mortalité d'origine dégénérative, c'est-à-dire cancer, cardiovasculaire, accident cardiovasculaire, etc., qui deviennent majoritaires à partir dans la mortalité à partir des années 1920-1930. Donc, elle vient contredire le discours global de progrès médical depuis le début de l'ère pastorienne. Elle a été occultée également, cette grippe espagnole, parce que elle faisait de l'ombre au souvenir qu'on a construit de la Grande Guerre. À partir de 1920, on construit le souvenir de la Grande Guerre, on construit la mémoire de la Grande Guerre, autour de figures j'ai supprimé le développement pour gagner un peu de temps, mais autour de figures mythologiques, autour de héros comme le poilu, autour de personnages comme Pétain, Clemenceau, Wilson, donc autour de personnages, autour de lieux de mémoire, le fort de Blomont, le monument, on commence à construire dans chaque commune des monuments aux morts, l'Arc de Triomphe, etc. La mémoire historique de la Première Guerre mondiale se construit petit à petit et occupe pratiquement toute la place dans l'espace mémoriel français à l'époque, non seulement français, mais aussi dans d'autres pays. Un des ouvrages qui a fait référence en 1975, c'était l'Américain Crosby, qui a publié The Forgotten Pandemic en 1975, pour montrer que cette grippe, cette grande grippe, elle a été aussi oubliée aux États-Unis. Pour la grippe, la troisième raison, outre cette transition épidémiologique et puis cette ombre de la guerre, on n'a pas de date précise, on n'a pas de point de fixation notamment, il n'y a pas de lieu de fixation de la mémoire, puisque cette grippe, elle a concerné tout le monde, donc en fait, elle était en gros un peu nulle part. Il n'y a pas de héros, sauf dans quelques pays, Et on a une mémoire un signal faible de la grande grippe, de la grippe espagnole, notamment au Canada. On a des monuments à la mémoire des personnels soignants qui sont décédés pendant la grippe espagnole. Idem en Nouvelle-Zélande. Hein, donc parfois, dans quelques pays, on a quelques éléments de mémoire. Mais globalement, la mémoire, elle reste une mémoire intime, une mémoire familiale, enfouie dans l'inconscient collectif, et qui réapparaît progressivement à partir de la fin du XXe. Pour terminer et pour enchaîner avec la comparaison l'épidémie présente, on voit ici, ça c'est le graphique sur l'occurrence du nom grippe espagnole dans Google Scholar, World of Science, pardon. On voit que il y a un petit gain d'intérêt après 1920. Il y a pas mal de thèses en médecine qui sont soutenues sur la grippe espagnole, et puis ensuite l'oubli s'installe. Et ne réapparaît que dans les années 90 et avec un pic en 2009 avec la grippe. Alors, un pic en 2003 avec le SRAS, pic en 2009 avec en 2006 avec la grippe aviaire, et pic en 2009 avec la grippe mexicaine H1N1 avec la même souche virale. Après une diminution depuis 2009, et puis il y a sans doute un regain, donc on fera un petit peu de bibliométrie l'année prochaine. Mais évidemment, il y aura un regain sur l'intérêt qu'on peut porter bibliographiquement à l'été espagnol. La réapparition de l'été espagnol, d'abord dans les recherches scientifiques, se fait principalement après l'épidémie de sida. Pourquoi? Parce que avec le sida, on est dans un monde qui commence à réadmettre que le progrès médical n'est pas linéaire et que le risque infectieux ne disparaîtra pas complètement. Ensuite, cet intérêt est confirmé par d'autres résurgences infectieuses, hein, donc comme le SRAS en 2003, comme donc la grippe aviaire, etc. Avec aussi, alors là, les anthropologues et les historiens de la santé ont pas mal travaillé dessus, avec aussi des enjeux géopolitiques autour de l'instrumentalisation du risque infectieux, sur lesquels je n'entendrai pas, mais là, il y a Kerr, il y a Zilberman, etc., qui ont travaillé là-dessus, et qui montrent bien que l'émergence du risque infectieux, la réémergence du risque infectieux devant l'actualité, elle n'est pas anodine. Il y a un rôle de l'armée américaine aussi là-dessus après la guerre froide. Enfin bon, il y a pas mal de choses. L'OMS aussi qui reprend le contrôle du risque grippe parce que elle s'est un petit peu ratée sur le sida. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Même population là, autour de ça. Alors, de la grippe espagnole au Covid, pourquoi ressortir avec une épidémie du terroir? Je pense que ça correspondait à une première phase de l'épidémie du Covid, qui est de l'inconnu, hein, face à la virus. Bon, le coronavirus était connu, mais celui-là, ce type-là, il était inconnu. La nécessité de retrouver des repères. Ça dénote la perte de mémoire épidémiologique dans une population ou dans des autorités qui n'ont plus le souvenir de grandes infections, de grandes épidémies. Cette nécessité de repères, elle se traduit par le rappel des gestes d'hygiène, le rappel des gestes de, voilà, d'hygiène de base, voilà, se laver les mains, etc. Et donc, ça déjà, c'est une bonne chose aussi, si on arrive à rappeler tout ça. Et puis, ça montre également qu'il est difficile de construire une gestion de crise sur du vide. C'est-à-dire, du vide, qu'est-ce que j'entends par vide? C'est l'absence de représentation dans les populations, mais aussi dans chez les autorités, l'absence de représentation des impacts d'une épidémie, ou des impacts d'une catastrophe. Je pense qu'il y a des parallèles intéressants à faire aussi avec la canicule 2003. La canicule 2003, où on a vu débarquer un aléa, la chaleur, sur lequel on n'avait pas du tout de représentation, il n'y avait pas de lien dans les esprits, que ce soit des autorités, populations, les scientifiques, etc., en dehors de quelques experts, il n'y avait pas de lien entre chaleur et décès. On faisait du lien entre chaleur et incendie de forêt, chaleur et sécheresse dans l'agriculture, etc., mais il n'y avait pas de lien entre chaleur et décès. On ne s'imaginait pas, on n'avait pas la représentation possible de décès par milliers à cause de la chaleur. Et du coup, ben ça induit un manque de réaction criant à l'époque. Alors ça nous ramène aussi, j'en ai parlé avant, à des ce qui me semble être pour moi des faux procès ou des faux problèmes. Celui de la mondialisation, on y est depuis longtemps dans la mondialisation, hein, on y est depuis Christophe Colomb, sous des formes et à des vitesses différentes, et on y est sur la question des frontières qui a tenté d'être manipulée hein, par certains groupes, alors que ce soit Trump ou d'autres, on ferme les frontières, pour des raisons là clairement idéologiques, parce que ça ne correspond pas à une réalité médicale. Et puis, intéressant aussi quand le politique vient brouiller l'expertise. Et ça c'est une constante aussi pas seulement dans les épidémies, hein, mais on a d'autres exemples dans d'autres types de catastrophes, que ce soit des catastrophes naturelles ou des catastrophes technologiques ou sanitaires, quand le politique prend le pas sur l'expertise scientifique dans la gestion, dans les drivers de la gestion, comme diraient nos amis anglo-saxons. Ça a été le cas, par exemple, un petit peu à la marge, mais sur les élections municipales, on voit bien que le président Macron a été un petit peu poussé à maintenir le premier tour des élections parce qu'il ne voulait pas se faire taxer de ce point de vue. Enfin voilà, il y a ce type de débat. Qui n'est pas nouveau, qui existe dans beaucoup de crises. Ça avait été le cas aussi pour la canicule 2003. Alors j'ai fait un petit tableau comparatif grec-espagnol COVID-19 en sachant que ce tableau il est temporaire pour le COVID, et puis il présente un certain nombre de troubles, notamment pour les trucs espagnols, parce qu'il y a certains secteurs qui ne sont pas certains thèmes qui sont pas très documentés. Ce qui peut nous rapprocher, le rapprochement au départ, ce sont les symptômes, bien sûr. Hein. On retrouve les mêmes symptômes, des fièvres, des céphalées, des toux, des complications pulmonaires, avec surréaction immunitaire. Dans les descriptions de la grippe espagnole, dans les tests de médecine, il y a des descriptions très, très, très précises de l'évolution des malades, des courbes de fièvre, etc. Et on retrouve ce qu'on nous dit, ce que les médecins nous disent sur le corona. Alors, sans doute, dans le détail, il y a des différences, hein, mais globalement, c'est la même chose. Ce qui peut différencier sur le plan médical, c'est la période d'incubation. Période d'incubation beaucoup plus rapide pour la grippe que pour le corona, a priori. Le nombre de vagues, 3 vagues pour la grippe espagnole, j'espère qu'on trouve ça ne durera pas un an et demi pour le coronavirus. Et puis, sur le taux de mortalité, a priori, pour l'instant, on serait à peu près sur des taux qui sont à peu près semblables, même si, évidemment, il y a une grosse inconnue sur le nombre réel de malades, et notamment sur les malades asymptomatiques. Même chose pour la grippe espagnole. On estime que le nombre de malades, c'est-à-dire le taux de morbidité, est de 30 à 50%, mais on n'en est pas certain. J'ai mis le bilan humain en France, hein, donc 250 000 morts pour une population deux fois moindre. Le traitement de, les traitements de complications, évidemment, la différence majeure, c'est dans les traitements et dans les capacités de traitement des complications, on est évidemment beaucoup plus armé. On est également aussi beaucoup plus armé dans tout ce qui concerne la détection précoce de la maladie, donc par les tests et puis par un système de vigilance internationale qui est quand même relativement efficace. Donc là, justement, il y a une question sur le contraste entre la coopération internationale scientifique médicale qui semble relativement efficace par rapport à une coopération politique qui, elle, est complètement, enfin, est proche de zéro, puisqu'on est pratiquement dans tous les pays sur une logique nationale. Il n'y a très peu de solidarité international. Et puis le dernier point qui induit une forte différence entre les deux épidémies, c'est que sur la grippe espagnole, on est sur une mortalité principalement de jeunes adultes. Les principales classes d'âge qui ont subi des décès, c'est 15-45 ans, alors que sur le corona, on est plutôt sur une croissance de la mortalité avec l'âge. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut mener un débat avec cet outil, mais voilà, je lance quelques pistes sur notamment la crise comme apprentissage. Comme apprentissage sur les gestes hygiéniques, sur les dispositifs de gestion de crise, hein, sur le plan blanc, etc. Donc, même s'il n'y a pas même si finalement, pour des raisons X ou Y, la crise du Covid retombe dans l'oubli, elle ne sera pas oubliée par le monde médical, hein, qui a fait un exercice réel, et qui aura sans doute beaucoup de conclusions à tirer. Des nouvelles pratiques aussi, à savoir si elles seront durables. La pratique du confinement, qui a été découverte. L'usage du masque, est-ce que cet usage va perdurer, j'en sais rien. Et avec des pratiques aussi, par exemple le confinement, qu'on peut envisager pour d'autres contextes, notamment le prochain accident nucléaire. Hein, si dans le prochain accident nucléaire, on nous dit il faut confiner, on peut supposer que ça résonnera un petit peu dans l'esprit de la population qui aura déjà connu ce confinement. La crise comme innovation, avec des méthodes alternatives, le développement du télétravail, qui n'est pas propre à cette crise, mais on l'a déjà vu, par exemple, lors de la crise des transports en région parisienne, il y a le télétravail, il y a des moyens alternatifs de transport qui se développent à cette occasion. Avec des secteurs économiques gagnants-perdants, et puis avec une récupération économique qui sera sans doute aussi étudiée à la lettre, avec des reports d'activité, avec des restockages, donc il y aura une partie récupération, mais il y aura une partie évidemment d'activité perdue. Et puis, je vois aussi comme point le rôle de l'État, hein, qui est quand même très affirmé. Et ça me renvoie à tous les débats autour du système CAPNAT en France. Le système CAPNAT, qu'on nous dit que le système CAPNAT peut s'effondrer si on a un risque majeur, un accident majeur, une catastrophe majeure, une crue du Rhône, une type 1856 ou 1910. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper de cette catastrophe potentielle, mais il est évident que l'État, comme dans toutes les grandes choses, viendrait, par l'endettement principalement, l'État viendrait au secours de la société. Donc, ça a été le cas pour les crises financières, et ça sera le cas, évidemment, pour une crise naturelle majeure qui n'entamerait pas, à mon avis, le crédit du système SatNet actuel. Donc ça, je pense que c'est un gros problème. On peut en parler. La question du confinement, alors, elle se pose pas en 1918, j'ai dit pourquoi. Elle suppose évidemment un système de veille précoce, donc la détection des patients zéro, de nombreux tests fiables et rapides. Et on a vu que ce qui pose problème, ça n'est pas la détection, ça n'est pas l'aspect médical, puisqu'on savait déjà, qu'il y avait des malades qui allaient venir de Chine. C'est la décision politique. La décision politique qui a été trop tardive, mais bon, elle l'a pour certaines raisons. Et puis ça suppose évidemment aussi des moyens de survie pendant le confinement qui n'existaient pas en 1918. La question aussi du déconfinement. Alors je préparais ça avant l'intervention du Premier ministre mercredi soir, mais se pose aussi la question du déconfinement, parce qu'on voit très bien que cette grippe, finalement, elle est très géographique, hein, puisque certaines régions, notamment le Grand Est et la région parisienne, sont très touchées. Elles avaient été les premières touchées par le Bas-Rhin et par l'Oise, avec actuellement des systèmes de transfert, hein, des systèmes de transfert de malades. Donc tout ça est fortement géographique. Donc est-ce qu'on va assister à un déconfinement géographique, un déconfinement temporel, c'est-à-dire déconfiner la semaine où on peut contrôler les contacts entre les personnes avec des protections dans le milieu de travail, mais confiner le week-end où là, mon contrôle est beaucoup plus difficile. Hein, si vous avez des réunions familiales de 50 à 100 personnes, évidemment, c'est un peu compliqué de ne pas s'exposer à une reprise, à une recirculation du virus. Est-ce qu'on va être dans un déconfinement graduel sectoriel, avec certains secteurs économiques, petit à petit, les écoles, les collèges d'abord, puis les lycées, les universités ensuite, enfin voilà, il y a quand même plein de questions autour de ça, avec aussi le problème de la visibilité du confinement. Si on fait un déconfinement qui est très sain, géographiquement, sectoriellement et temporellement, on se retrouve à une visibilité très faible de ce déconfinement, et ça va être la pagaille parce que les gens ne comprendront pas. Donc il y a un équilibre sans doute entre la lisibilité du déconfinement et puis son efficacité en termes épidémiologiques pour éviter une reprise. Et puis il doit être évidemment accompagné de tests nombreux et un résultat rapide. On voit dans des pays, donc là on est vraiment sur la cohérence du système, hein, le confinement et le déconfinement ne marchera que si on a des tests nombreux, c'est-à-dire si on peut identifier les porteurs, et si les porteurs peuvent s'identifier et se confiner. Alors sur quelques conclusions d'ouverture temporaire, donc la nécessité d'entretenir la mémoire épidémiologique, la catastrophe qui vient là où on ne l'attend pas. Je concluais dans le bouquin que le scénario franco-espagnol ne serait sans doute pas possible, notamment sous la forme d'une grippe, mais qu'il viendrait d'autres choses. Et puis, il y a la question des catastrophes naturelles. Je construis ça par rapport à l'APEC, les catastrophes naturelles sanitaires, mais pas sous un lien causal, mais sous un lien de simultanéité. Par exemple, imaginons des scénarios, très bien saine pendant une épidémie. On n'est pas passé loin au mois de mars. Au mois de mars, on a eu une petite crue de la Seine, c'est monté à 4 mètres, je crois, à Austerlitz. Si mes souvenirs sont bons, mais Régis connaîtrait mieux que ça mieux que moi. Hein, donc on peut imaginer également un séisme dans un pays sous confinement. Hein, on peut imaginer un séisme au Japon, ou un grave séisme au Nicaragua, ou je ne sais où, ou en Californie, pendant une période épidémique. Comment on gère? Hein, en Outre-mer également, avec l'équipe au labo, là, à Montpellier, on est en train de réfléchir effectivement à une multi-crise, à une crise Natsan aux Antilles, avec soit un tsunami, soit une éruption de la soufrière, en même temps que la période de confinement épidémique. Réflexion aussi sur les effets structurants de crise. Et ce que disent les anthropos, et je le partage, c'est que ces crises ont des effets structurants que si elles font sens. Hein, c'est-à-dire, si elles... il y a la crise de l'absence de Mayotte, bien sûr, aussi. Donc, les effets structurants, les effets des crises sont structurants que si la crise fait sens. C'est-à-dire si on lui donne du sens, ou si elle en a dans l'histoire de la société qui l'a subit. Et puis, il y a aussi tous les aspects crise visible, crise invisible, et notamment toutes les autres pathologies. Hein, j'ai fait un rapide calcul ce matin. En France, il y a 1700 décès par jour. 1700 décès par jour. Ça veut dire qu'il y a des gens qui décèdent d'autres maladies, et on a déjà vu des appels de chirurgiens, de cancérologues, etc., qui disent, mais nous ne répondons pas complètement de nos besoins, parce que on doit gérer les problèmes quotidiens aussi. Et ça, c'est un thème qui revient en permanence quand on travaille avec les sapeurs-pompiers, etc. Un des thèmes, c'est comment on gère des gros coups, type inondation, épidémie, etc., tout en gérant le quotidien, c'est-à-dire les gens qui font des AVC, les gens qui font des chutes au domicile, toute l'accidentologie quotidienne qui doit continuer d'être gérée. Hein, et donc, il faut les accidents domestiques, la violence conjugale, etc. Donc là, il y a tout un tas d'effets collatéraux qui ne sont évidemment pas oubliés. J'en ai terminé. Hein, j'espère que j'ai pas été trop long. Je sais pas comment, si vous voulez engager un débat, Roland.
Oui, déjà peut-être dire un mot pour remercier Freddy, sa deuxième intervention. Donc bien rappeler qu'on n'a pas fait ça par opportunisme, qu'on a déjà vu l'intérêt de cette présentation-là. Rappeler aussi, il a dit très rapidement qu'il a écrit un livre formidable sur le sujet, qu'il a aussi donné une interview dans plusieurs médias, je crois que c'est une interview qu'il a donnée dans le monde des livres. On peut peut-être simplement faire le lien avec ce qu'on a dit avant en CA, donc le fait qu'il y a vraiment une opportunité de créer un groupe de travail sur cette thématique, toujours pas par opportunisme ou opportunité, mais pour essayer d'améliorer finalement la gestion des risques de catastrophe. Donc il y a dit beaucoup de choses extrêmement intéressantes, qui ont fait débat maintenant, on en a pour jusqu'à 2 heures d'après-midi. Moi, c'est vraiment des questions très ciblées et que tout le monde en est sur le pied, là, mais je pense que ça serait plus sage pour envoyer un nouveau échange sur ces questions-là, peut-être passer la parole au président Kerst aussi, qui est toujours avec nous.
C'était parfait. Bonjour, merci. Voilà. Je suis bien là, est-ce que vous m'entendez? C'était parfait, Régis, merci. Est-ce que vous, cette question-là, vous m'entendez?
Oui.
Bon, très bien. Bon, Régis, merci d'avoir récidivé sur cette conférence à laquelle l'actualité donne une importance particulière. D'abord, merci à Freddy de la qualité de son exposé. Alors, dans l'exposé, j'ai retenu quand même un élément, c'est qu'il est plus sympathique d'être en déficit de rhum qu'en déficit de masque. Mais est-ce qu'à l'époque, on a bien compris que le lien, le masque, le Japon, etc., mais est-ce qu'à l'époque, j'imagine, le déficit de masque faisait déjà une proportionnelle, c'est-à-dire on a imaginé le masque et puis c'était naturel, ça faisait aucun problème par rapport à l'importance du masque dans la polémique en 2020. Et puis, au-delà de toutes les préoccupations que vous avez exposées, est-ce qu'il n'y en a pas une que peut-être le groupe de travail que souhaite créer Régis pourrait envisager, c'est la communication en temps de crise. Car on assiste bien à un problème, c'est que la communication aujourd'hui avec les médias qui n'existaient pas à l'époque, bien sûr, la communication peut être extrêmement anxiogène. Est-ce qu'il faut envisager une stratégie de communication en période de crise sanitaire, comme d'ailleurs d'autres crises, mais singulièrement en temps de crise sanitaire, parce qu'il y a un élément qui échappe à chaque responsable de la population, et on oscille quand même en permanence entre une communication qui inquiète et une communication qui veut rassurer, l'une et l'autre ne donnant peut-être pas forcément satisfaction.
Moi, je pense qu'il y aura de toute façon, on ne peut pas viser une gestion de crise parfaite. Hein. Il y aura toujours des erreurs, il y aura peut-être des fautes, donc les fautes, il faut les condamner, mais les erreurs, il peut y en avoir, et on ne peut pas aussi, les gens sont humains. Il y a quand même un parti pris, alors depuis, je pense, depuis la fin février, il y a un parti pris un petit peu de la transparence, avec une intervention quotidienne. La parole qui est donnée à un expert, le professeur Salomon, est pas systématiquement politique. Donc je pense que ça c'est une volonté, mais bon, moi je ne suis pas un expert de la communication, il faudrait voir comment les experts de la communication voient ça. Mais la communication, elle se fait aussi sur un socle, sur un support. On voit aussi que pour le confinement, il y a eu une progressivité, hein, c'est-à-dire qu'on a essayé, d'abord on a ordonné la fermeture des écoles, des universités, avant un confinement total entre guillemets, mais c'est sûr qu'il y a eu du tâtonnement, hein, on le voit sur le statut du jogging, entre guillemets, est-ce que on a le droit d'aller faire un jogging, est-ce qu'on n'a pas le droit, donc là il y a du tâtonnement et c'est inévitable.
Dans un de vos diaporamas, vous avez évoqué l'efficacité du confinement avec la rapidité de la décision. C'est facile a posteriori de
mettre
un commentaire, une réserve, mais si on fait l'analyse à chaud comme ça d'un retour d'expérience et sans mettre en cause qui que ce soit, on peut analyser deux points. Déjà, entre la décision le jeudi soir des écoles et des lycées et la décision du confinement total du lundi, on voit bien qu'il y a eu 5 jours et c'est 5 jours, on paye charmant encore mieux. On ne peut pas ne pas mettre ça en rapport avec l'élection du premier tour.
Oui, bien sûr. Moi, bien sûr. Je pense qu'il y avait aussi la volonté d'une certaine progressivité. Il y avait le problème et l'action, ça c'est clair.
Mais justement, c'était le deuxième point. Par analogie, nous on a mis en place au BRG une crise assez tôt. C'était assez exemplaire, hein. Notre fonctionnaire sécurité de défense a fait les choses en main. Même, avec une certaine perplexité de notre mandat général au début, qui disait qu'on en fait peut-être un peu trop. Et on voit bien que les 5 jours d'avance qu'on avait par rapport aux décisions étatiques, on le voit bien par rapport à la propagation de la maladie dans les personnels de l'établissement. Et le deuxième point que je voulais souligner, c'était effectivement, il y a une progressivité, on n'a pas raté une étape de progressivité, je l'ai mis par écrit tout à l'heure comme question, en ne confinant pas la zone de Mulhouse à Minima, voire même l'Oise. On avait deux clusters clairement identifiés. On avait le retour d'expérience des Chinois avec tous les bémols qui sont apportés sur la transparence du retour d'expérience. On savait que le confinement localisé des clusters, c'est ce qu'ont fait aussi les Coréens du Sud, on savait déjà que ça amené des résultats et on peut se poser la question sur le non-confinement à Mulhouse. On sait que c'est notamment à cause de cette fameuse réunion religieuse qui a eu lieu, et ça a propagé, ça a été un des grands vecteurs de propagation de l'épidémie en France, et notamment dans, en Outre-mer. La Guyane est atteinte uniquement à cause de gens qui sont venus à Mulhouse pour cette grande réunion évangélique.
Le mal est fait. Et ça, c'est lié en particulier par rapport à la grippe, c'est lié au temps d'incubation aussi.
Oui, c'est vrai.
C'est lié au temps d'incubation. Le temps d'incubation est long, donc ça, c'est un point d'avantage, mais c'est aussi un problème.
De vous quitter la journée. Est-ce que vous avez regardé le plan épidémie? Moi, j'ai regardé le plan épidémie qui avait été adopté en 2012. C'est intéressant parce que je suis aperçu que le gouvernement suivait à peu près les phrases qui étaient décrites dedans. Ça sera quelque chose de très utile à regarder dans les réflexions qu'on va avoir aussi, le fameux plan épidémie. Hein. Donc, moi, je remercie Freddy là, pour tout ce qu'il nous a donné. Ça va donner de la bonne base au groupe de travail qu'on va essayer de lancer sur le sujet. Voilà, merci encore.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci bien. Ben donc on va devoir s'arrêter. Et on trouvera les moyens d'un échange. Il y a des questions qui ont été posées, on les a enregistrées via le chat. Donc certaines étaient Karim Batiman a posé la chaîne directement, et d'autres ont resté, mais bon, elles seront transmises à Freddy qui n'est pas vu du même. Et puis on garde le contact. Freddy est aussi un membre de la SPCN. Merci à cette association qui est divisée entre nous. Bon appétit
à tous. Et puis je pense qu'on n'a pas fini de tirer les enseignements de ça. Mais
prenez bien soin de vous.
Oui, oui.
Merci beaucoup.
Ne sortez pas, continuez-vous.
Allez.
Et merci, à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Qui seront utilisés par la suite. Et on aurait pu faire une répartition identique pour chaque mission. On a modifié ça un peu pour tenir compte de la maturité des propositions.
Je pense que ça va être